Et ben nous revoilà dans Onde Noire sur Agora Côte d'Azur. Corinne, à toi, de quoi vas-tu nous parler ?
De deux livres en même temps, enfin deux livres en même temps, l'un après l'autre, mais je les ai réunis, d'abord parce que c'est deux coups de cœur, deux coups de poing, et puis que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux romans. Le premier s'appelle « Après la guerre », l'auteur en est Hervé Lecor, et c'est paru dans la collection Rivage Thriller chez Payot Rivage. Jérémy Guèze est le deuxième écrivain, le titre « Le dernier tigre rouge », et c'est chez Grand Détective aux éditions 10-18. Je disais donc beaucoup de points communs, la guerre d'abord. Et des guerres, il en est de multiples. Les guerres entre les peuples, bien sûr, plutôt d'ailleurs entre des idéologies et des hommes bien planqués. D'ailleurs, Jérémy Guèze fait dire à un de ses personnages « On fait la guerre à quelque chose de plus grand, à ceux qui commandent, pas à ceux qui exécutent. » Il y a aussi des guerres entre des individus, des duels, comme celui que se livre Jean Delbos, alias André Vaillant, le rescapé d'Auschwitz, revenu à Bordeaux pour se venger de l'infâme Darlac, le flic qui l'a trahi. Ça, c'est dans le roman d'Hervé Lecor. On va aussi retrouver un duel dans le roman de Jérémy Guèze. Mais les guerres les pires, ce sont celles que l'on mène contre soi-même, contre ses propres démons. Ainsi, tous les personnages de ces deux romanciers. Commençons par Hervé Lecor, Charles Barreuil et... Non, pardon, par Jérémy Guèze, Charles Barreuil et Botvinnik pour Jérémy Guèze, donc. Delbos, Darlac... Je les ai déjà évoqués, mais aussi Daniel, qui va partir pour l'Algérie, découvrir ce que lui et les autres sont capables de faire dans un terrain de guerre. Voilà, ça c'est pour le roman de Hervé Lecor. Des guerres dont en fait on sort toujours, d'un côté comme de l'autre, perdant, fantômes à jamais, enveloppes humaines contenant les débris qu'ont laissé les tourments de l'histoire. Enfin, point commun de ces deux ouvrages, c'est la qualité d'écriture. Tant dans l'évocation des périodes de l'histoire, des lieux où elle se situe, mais aussi dans le talent à trouver les mots pour décrire les tourments de ces personnages, les souffrances physiques étant souvent les moindres de leurs peines. Commençons donc par Le dernier tigre rouge, le roman de Jérémy Guèze. L'histoire débute en 1946. L'on va suivre lors de la première guerre de décolonisation deux personnages principaux, avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Il y a Charles Barreuil, en gros l'âme en lambeaux, et on le comprend, après l'assassinat de sa femme enceinte dans les Balkans, et une fin de Deuxième Guerre mondiale où, en gros, il se reproche d'être arrivé trop tard. Il va donc s'engager dans la Légion, non pas pour défendre un idéal, un pays, mais en gros pour que son corps expie ses fautes passées, du moins celles dont il s'accuse. Comme il dit, nous, face à nous-mêmes, nous et nos têtes malades. Il est donc dans la Légion où il croise, côtoie, copine, les amis, ennemis d'hier, qui sont tout autant d'anciens nazis, des communistes, des trafiquants de tout poil. Et ensemble, ils pataugent dans ce bourbier insalubre et mortifère en Indochine. L'autre personnage de ce roman, c'est Botvinnik. Lui, il est d'origine juive. Il a échappé par miracle au camp de concentration. Et ses blessures morales, mentales, lui ont fait choisir l'autre camp. Et en communiste convaincu, il se bat aux côtés des Viettes. Évidemment, un blanc ne passe pas inaperçu. Et Barreuil va se mettre à la recherche de cet occidental qui tue ses copains, mais qui, mystérieusement, un jour, l'épargne. Dans ce roman, il y a certes un très très beau travail de documentation. Jérémy Guèze a brossé une reconstitution historique sans faille. Quelques lignes lui suffisent pour dépeindre un champ de bataille, les bourbiers, l'horreur des combats, récits de sang, de merde, de chair putride, sans effet, sans faire de surenchère, avec une sobriété qui touche au plus juste. Mais là où il est aussi bon, c'est la façon dont il arrive aussi à décrire en quelques lignes la souffrance, les tourments intimes de ses personnages. Et là aussi, les effets de manche ne sont pas de mise. Un récit au cordeau, une mise en scène magistrale pour une histoire profondément humaine dans un des cloaques du XXe siècle. Cloaque du XXe siècle, il en est aussi question dans le roman d'Hervé Lecor, je rappelle son nom, Après la guerre. Premier cloaque, la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième, la guerre d'Algérie. Ce seront les conflits qu'ont subis les personnages dans ce roman. On suit cet écrivain français, Hervé Lecorre, depuis longtemps. Et l'on sait tout le talent qu'il déploie quand il s'agit de parler des souffrances des êtres humains. Je vous conseille un de roman fantastique qui s'appelle « Les cœurs déchiquetés », qui est son précédent roman. Mais là, il se surpasse. On va avoir des destins qui s'entremêlent. Un homme rescapé des camps, dont la femme est morte en déportation, il s'appelle Jean Delbos. Daniel, un jeune qui va partir faire la guerre en Algérie, je dirais presque naïvement. L'un est déjà un fantôme, l'autre va le devenir. Celui qui est un fantôme bien vivant, vivace de la collaboration, c'est le commissaire Darlac, un pourri, avant la guerre, pendant et après. Delbos veut sa peau et commence à éliminer ceux qui travaillaient avec Darlac. Hervé Lecorre pétrit ses personnages tout en nuances. Il lui était franchement facile de faire de Delbos une victime intégrale. Ben non, avant la guerre, il fricotait avec Darlac. Et d'ailleurs, il délaissait sa jolie femme, qui lui manque tellement maintenant. Il l'a délaissée, en gros, pour saper des putes. Ça aurait été tellement simple aussi si Daniel, celui qui part en Algérie, avait rechigné, s'était révolté avant de partir. Non, Daniel, il joue au petit soldat. Il devient même un bon tireur. Il est fier quand son lieutenant est content de lui. Et puis, un ami est tué, son lieutenant. Des représailles contre un village. Et tout bascule. Même Darlac, salaud intégral. Il y a des petites lueurs. Il se bat entre autres pour son enfant, sa fille qu'il aime par-dessus tout. Dans ce roman, on est dans les années, fin des années 50, je dirais qu'Hervé Lecorre nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ces années 50 où les idéaux, les utopies existaient, poussaient certains d'ailleurs à des actes humanistes, des petites gens, des militants. À cette époque-là, la condition ouvrière, elle fédérait, plutôt qu'elle divisait. Et puis, on avait encore des luttes contre les injustices qui fleurissaient un peu partout. Ne pensez pas, pour autant, que le récit soit nostalgique. L'ombre de la Shoah, de la déportation, des dénonciations hante les rues de Bordeaux, où se situe le récit, et les esprits de ceux qui sont restés après la guerre. Delbos pense à un moment donné, c'est une des phrases du récit, il faudrait écrire des livres pour y placer tous ces gens et leur donner un passé et un avenir. Ben moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est merci Hervé Lecorre pour être un de ces écrivains qui ressuscite quelques damnés de la terre. Et pour finir ma chronique, je vais terminer par les mots d'un poète que je crois qui est cher à l'auteur Hervé Lecorre. Donc, quelques extraits d'un pas vraiment un poème. J'ai vu pendant toute ma vie, sans en accepter un seul, les hommes, aux épaules étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leur action la gloire. Ces quelques mots sont extraits des Chants de Maldoror d'Isidore Ducasse, autrement dit, Comte de Lautréamont. À un moment donné, un personnage d'Hervé Lecorre dit que la poésie, ça sert pas à grand chose. Moi, je reste persuadée que quand même, ça peut faire quelque chose. Voilà. Je rappelle les deux titres de livres, ainsi que les écrivains et les collections. Donc, Après la guerre, d'Hervé Lecorre, chez Rivage Thriller à Paillot Rivage, et Le dernier tigre rouge, collection Grand Détective, et c'est un roman de Jérémy Guèze.
Et je rappelle aussi que Hervé Lecorre avait écrit un roman dans lequel Isidore Ducasse était le personnage, en quelque
voilà.
sorte.
Voilà, c'est pas pour rien qu'on a été chercher les Chants de Maldoror. Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, on va changer du tout au tout, avec du blues, du bon vieux, enfin pas bon vieux, du bon blues rock. Celui qui va chanter, jouer de la guitare en trio toujours, c'est Manu Lanvin. Son groupe s'appelle Manu Lanvin and the Devil Blows. CD qui vient juste de sortir, tout comme le premier morceau qu'on va écouter, s'appelle Son of the Blues. Allez, on y va, Manu.
Got blues, love city swagger, from head to shoes. I'm no Jimmy, my mojo's in my boots. Not easy like Jagger, the bet you're gonna lose. I'm a street dog sometimes, I score as a viper. If you love the jabber, I'd slap you for sure. Call me some mister, I'm a minister. I did it, I'd say just for the funk. Watch your mouth, homie. And my left hand got King Kong. You'll be on tilt in no time. I smoke you like a joint.
Et ça ressemble beaucoup à du blues texan, puisqu'en fait, Manu Lanvin a été aussi le guitariste de Calvin Russell pendant sa dernière tournée, son dernier disque. Et Calvin Russell était texan, ce qui nous ramène très habilement au livre dont je vais vous parler, car il se passe au Texas.
Quel enchaînement!
C'est vraiment, c'était même pas fait exprès, c'est juste en entendant les dernières notes que j'y ai pensé. Donc, le livre dont je voulais parler, c'est un livre de Joe R. Lansdale, qui s'appelle « Les mécanos de Vénus ». Qui est paru aux éditions de Noël dans la collection Sueur Froide, et il est traduit par Bernard Blanc. Alors ce roman, c'est le dernier roman de Joe Lansdale.
Le dernier paru,
il fait partie de la série Happ et Léonard, et en fait même s'il est paru tout récemment, il date en fait de 1990, et c'est la première aventure des deux compères, Happ Collins, le petit blanc sympa qui a refusé de faire... une guerre, celle du Vietnam, dans laquelle il ne se reconnaissait pas, et Leonard Pine, son copain, qui est grand, fort, baraqué, noir, lui est ancien du Vietnam, un vétéran, et qui est aussi homosexuel. Jusque-là, leur aventure avait commencé par L'arbre à bouteilles, qui était paru à la série noire en 2000, il y a bien longtemps.
Qui était une magnifique découverte.
Voilà, et les fans, les accros à Happ et Léonard, connaissaient l'existence de ce premier roman, mais sauf pour les anglicistes, la plupart ne l'avaient jamais lu. C'est donc de Noël qui a repris la publication de Happ et Léonard, qui nous donne l'occasion de le lire, Ces mécanos de la Vénus. De Vénus. Un titre d'ailleurs bien étrange, car le titre en VO... pourrait être traduit par « La saison sauvage ».
Oui, on en est un peu loin, voilà. Mais bon.
Mais il y a un petit rapport avec Vénus, malgré tout, dans l'histoire.
Et des mécanos.
Ouais.
Enfin, vu la voiture.
D'une certaine façon, voilà. Alors, cela nous permet de faire connaissance avec les deux héros. Ces deux héros, au début, ils travaillent comme ouvriers agricoles dans des champs de roses du Texas. Rien de très, très passionnant, mais il faut bien vivre. Les vétérans du Vietnam, on le sait, ne sont guère considérés par le gouvernement et encore moins par les habitants du Texas. Surtout si, en plus, il est homo. Quant à Leonard,
puis en plus, il est noir. Alors, voilà, au Texas, ça fait beaucoup.
Voilà,
bien,
quant, quant à Happ, lui, il a refusé de faire la guerre. Donc, c'était vraiment pas bien non plus. Enfin, du moins, pas bien considéré.
En plus, ce qui doit être dur, c'est que c'est lui qu'on doit traiter de tapette.
Voilà. Leur vie va un tout petit peu s'animer quand l'ex-femme de Happ, Happ Collins, le blanc donc, celui qui est plutôt hétéro, Trudy, c'est sa femme, elle arrive et elle propose aux deux amis de l'aider à récupérer un magot perdu depuis des années dans un des marécages du coin. Magot qui a été perdu après un braquage qui lui avait réussi. Mais voilà, en fait, Trudy, plutôt, elle est flanquée d'une bande d'ex-hippies reconvertis dans l'activisme écolo. Et on sent tout de suite que ça va mal se passer entre la bande et les deux compères. Mais Trudy, elle a des arguments auxquels Happ ne peut absolument pas résister. Et après, ce qu'on pourrait appeler une nuit d'amour torride, les voilà embarqués dans les marais pour trouver la barque dans laquelle se trouve de l'argent. Dès ce premier épisode, Lansdale a trouvé ses marques. Une histoire complètement frappée, du sexe et de la violence explicite. Mais c'est tellement drôle que ça passe complètement. Et pour les mots explicites, je peux vous dire que il n'hésite pas à les employer.
Ceux qui connaissent les suivants savent que
c'est quand même moins. Il a continué dans le délire après. On sent qu'il se retient encore un tout petit peu. On voit déjà malgré tout les réticences de Happ envers la violence, alors que Léonard, lui, il y va carrément. Alors les suivants seront encore meilleurs. Je rappelle d'ailleurs qu'ils sont tous disponibles en folio policier. Mais bon, autant lire celui-là d'abord, puisque c'est le premier. Et c'est quand même, faut bien dire, c'est super drôle, malgré une fin qui est quand même quasiment apocalyptique.
Ça, c'est
dantesque.
Il aime bien.
Ou alors ça,
dans l'autruche de Manhattan, elle est dantesque. Voilà.
Non, pas l'autruche de Manhattan.
Pardon. Dans le Mambo des deux ours.
Voilà. Et donc, évidemment, c'est drôle. Donc, ça passe très, très bien. On est là-dedans. Bon, évidemment, on se doute bien que si on prenait un bon quart, moins un dixième des coups qu'ils reçoivent ou des balles, on s'en sortirait pas aussi bien qu'eux. Mais c'est pas que drôle, parce qu'en fait, par petites touches, essentiellement grâce aux personnages secondaires, Lansdale, il nous décrit une Amérique pas forcément très reluisante. Et dans cette Amérique, le Texas n'est pas forcément le meilleur exemple à suivre. Donc c'est absolument à recommander. Je répète, les mécanos de Vénus de Joe Lansdale. Donc tous les autres, comme tous les autres sont parus à la folio policier, donc vous pouvez, ceux qui n'ont pas lu les autres, vous pouvez commencer celui-là, et puis hop, enfiler les sept autres derrière pendant l'été, vous allez vous régaler. Et ceux qui ont lu les autres, vous ne pourrez que vous régaler de ceux-là, de celui-là.
Et de découvrir cet auteur. Et voilà, je voulais simplement préciser, j'ai fait une erreur, l'autruche de Manhattan, c'est une autre histoire complètement déjantée avec aussi une fin apocalyptique, mais ce n'est pas du tout de Joe Lansdale, mais de Colin Batman.
Tout à fait. Et voilà. Puis je voulais préciser que Lansdale n'est pas que un romancier hilarant, enfin qui fait rire, parce qu'il a toute une série de romans qui sont plutôt sombres, dont Les Marécages essentiellement, ou Vierge de cuir, ou Sur la ligne noire, et qui sont aussi, on les retrouve, ils étaient parus dans diverses collections, mais on les retrouve tous en folio, et allez-y, mais ça sera pas le...
C'est moins drôle.
C'est moins drôle, mais c'est pas moins intéressant.
Vision de l'Amérique très intéressante, et Jean-Marc en parlait tout à l'heure, aussi une vision des problèmes de racisme... qu'il faut lire aussi. On s'en arrive au terme de la dernière émission de la saison. Donc, on va vous souhaiter un bon été. Alors, évidemment, vu le thème de notre émission, on va vous souhaiter un été pas noir quand même, mais un été plein de bonnes lectures, de bonnes découvertes. Beaucoup d'éditeurs ont lancé plein de nouveaux romans. Et puis, il y a beaucoup de rééditions en ces temps-ci dans les collections de poche. Donc, lire pas trop cher. Voilà. Donc,
allez chez vos libraires.
Voilà, allez chez vos libraires, faites de bons choix et puis on se retrouve à la rentrée. Donc, on va vous dire chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Et vous pouvez nous réécouter sur ondenoir.com, n'hésitez pas. Bon été.